Il n'y a rien qui m'empêche, qui t'empêche, qui empêche qui que ce soit de prendre un stylo, de prendre un papier et d'écrire le plus grand chef-d'œuvre du 21e siècle. C'est juste remplir du papier, hein? Donc, c'est infini les possibilités. Donc, l'écriture, tu sais jamais quand c'est bon, tu sais jamais quand arrêter, tu sais jamais comment le tourner, tu sais jamais quand tu te répètes, quand tu répètes pas, que ton... Il y a mille questions qui se posent, mais je pense que le but, c'est d'en poser le moins possible. Mais quand même, hein, c'est du travail et j'ai jamais autant travaillé de ma vie que maintenant.
Bienvenue dans La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Jem, j'adore faire parler les autres et ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Vous connaissez peut-être déjà mon invité aujourd'hui, Akosh Verboce. C'est l'auteur de Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101 et un ancien commissaire scolaire à Montréal. Akosh est né en Hongrie. Il a immigré au Québec à l'âge de 11 ans et il s'est pleinement intégré à la société francophone québécoise. Quand je l'ai invité à participer à ma série Balado, Akosh était déjà en pleine réflexion à propos de la quarantaine. Il vient tout juste de terminer l'écriture de son deuxième livre qui justement aborde ce sujet, le milieu de vie. C'est pour lui un premier roman qui reflète son parcours d'immigrant et sa relation à distance avec son père resté en Hongrie. Je ne peux pas encore vous dire le titre, mais il sera publié au printemps 2023. Dans cette entrevue, on parle entre autres de sa vie de petit gars en Hongrie au début des années 80, de son désir de maîtriser son existence en s'enracinant dans sa culture d'accueil et de ce qu'il ferait s'il était ministre de l'immigration. Enfin, on se demande ce que léguer un héritage peut vouloir dire quand on n'a pas d'héritier. Merci d'être là avec nous. Akosh Verboce, bienvenue à La Quarantaine. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir comme invité parce qu'on se connaît depuis, je pense, 22 ans. Je ne suis pas tout à fait certaine, mais dans ces eaux-là. Et on n'a malheureusement pas l'occasion de se voir beaucoup depuis les 15 dernières années, mais à toutes les fois qu'on se parle, j'ai toujours le bonheur de belles et grandes conversations. Et je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler de la quarantaine.
Merci de m'avoir invité. Et le lot de la quarantaine, c'est aussi de dire des choses qu'on entendait nos parents dire. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, j'ai fait ceci. Lui, c'est un ami que j'ai connu au secondaire et 20, 30 ans plus tard, on est encore amis. C'est drôle à dire, hein, de calculer les années de plus en plus. Et on voit de plus en plus, on regarde derrière, on regarde en avant, puis on fait des calculs, puis on se rend compte que, ah oui, je suis peut-être au milieu de ma vie. Mais en même temps, je suis peut-être au point de ma vie où je suis encore le plus en forme et que peut-être à partir de maintenant, ce n'est que déclin. Alors...
quelle note positive pour commencer cette conversation, Akosh. Mais effectivement, j'aime cette idée-là du milieu de la vie. J'aime l'idée qu'on est... possiblement qu'on a encore devant nous au moins autant de temps qu'on en a derrière, bien qu'évidemment, on n'est jamais sûr de ce qui est devant nous, mais on a cette opportunité-là, dans la quarantaine, de prendre un moment pour réfléchir ensemble, peut-être, à ces trois grandes questions-là que je voudrais te poser aujourd'hui. Qui es-tu? Où vas-tu? Et qu'espères-tu? Tu as écrit un livre qui s'appelle « Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101 » et ton parcours d'immigrant a beaucoup fait partie de ta personnalité publique depuis que je te connais. Alors j'ai pensé pourquoi ne pas commencer par là et te demander de me parler un peu de tes racines et de cette transition-là que tu as fait quand tu étais enfant d'ailleurs, quand tu es... Tu es déménagé de l'Europe au Québec.
C'est ça, moi j'ai eu un basculement de vie. J'ai eu un moment d'avant et d'après, bien avant ma quarantaine, quand j'avais 11 ans et que j'étais en Hongrie et que ma mère, qui nous élevait seule avec ma grande sœur et moi, nous a annoncé que désormais nous allons déménager au Canada, à Montréal, au Québec, et que nous y vivrons le restant de nos jours. Alors, un petit basculement dans une enfance qui, jusque-là, allait comme à la normale, où il n'y a jamais eu de grands changements, où les changements, en tout cas, arrivaient à un rythme très normal, très naturel. Et donc, je me retrouve au Québec, à cet âge-là, à 11 ans. Dans un endroit que je connaissais pas, évidemment. Bon, vaguement, le Canada, j'arrivais à placer le pays sur une map monde. Vaguement, je savais qu'on y parlait l'anglais et le français aussi parce que on me l'avait dit dans mes préparatifs. Sinon, pour moi, c'était l'Amérique, c'était les gratte-ciels, c'était des belles voitures, c'était possiblement des ordinateurs, puis du Nesquik tous les soirs. L'opulence sous forme de Nesquik, c'était pas mal ça l'idée que je me faisais de l'endroit où j'arrivais. Et j'ai fait mon bout de chemin après ça, et 30 ans plus tard, j'ai écrit un livre, justement à 40 ans, sur les 30 ans de mon intégration, qu'on appelle, de comment, en fait, je suis devenu l'autre, comment. Le petit Hongrois que j'étais a fini par se dire québécois, en essayant de comprendre c'est quoi les grandes rencontres qui font en sorte qu'on devient l'autre, en tout cas que notre identité se change, se modifie au point où on finit par se dire chez soi, chez nous, à un endroit qui n'était que l'étranger avant. Et donc, ces rencontres-là, j'en ai identifié trois. J'ai rencontré d'abord une langue qui m'a été imposée par cette loi 101-là, qui sans cette loi, que sans cette loi, j'aurais pas appris le français. En tout cas, si on se fie aux immigrants d'autres générations qui sont arrivés avant moi, de la Hongrie particulièrement. J'ai appris une langue. Qui m'a ouvert la porte à une autre rencontre, qui est celle de la culture québécoise, du Québec plus largement, la culture québécoise au sens de sa chanson, de sa littérature, mais aussi tout ce qui structure une société, hein. La culture, c'est aussi les mœurs, les valeurs, les façons de parler, les façons de faire. C'est tous les codes qu'on a dans un groupe, dans une société qui font en sorte qu'on y trouve notre place. Et la troisième rencontre que j'ai faite, c'était la rencontre avec des gens, avec des personnes, avec des amis, qui m'ont dit que je faisais partie des leurs, qui m'ont fait sentir que j'étais ici chez moi. Et cet ensemble de ces trois rencontres-là, la langue, la culture et les gens, qui ont fait en sorte, je pense, que j'ai fini par me dire québécois, que je me sens aujourd'hui ici chez moi, sans que j'aie abandonné ou que j'aie renié mon passé hongrois, ma culture d'origine. Puis d'ailleurs, là, peut-être j'y vais un peu vite dans la discussion, mais en ce moment, j'écris un autre livre, un deuxième livre, où justement, je réfléchis non pas à ce qui a fait en sorte que je suis devenu l'autre, mais à l'autre question inverse, à savoir comment je suis resté ce que j'ai toujours été, ou ce que j'étais au départ. Je trouve que je suis là-dedans actuellement.
J'allais justement te poser cette question-là. Je pense pas qu'on s'en soit jamais parlé. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, si tu penses au petit gars qui avait 10 ans, avant que sa vie bascule, comme tu viens de le décrire, qu'est-ce qui reste dans ta vie d'aujourd'hui de ces racines-là, qui sont pas juste aussi des racines de ta propre vie, mais de tes ancêtres même, si on peut dire.
Mais il reste d'abord mes souvenirs d'enfance et mes souvenirs d'adolescence et tous les moments plus tard où j'ai continué à retourner en Hongrie. La Hongrie s'est pas arrêtée quand j'avais 11 ans. Je suis venu ici, puis là je faisais des, comme tout bon immigrant, je passais mes étés en Hongrie, je suis retourné plusieurs fois, tantôt avec des amoureux, tantôt avec des amis, tantôt tout seul, donc j'ai gardé lien avec la Hongrie. Mais d'abord, je pense que c'est mes souvenirs de cette jeunesse-là, et c'est aussi, d'une autre façon, c'est une certaine façon, c'est aussi mon lien avec le pays de mes ancêtres, mais plus concrètement, plus spécifiquement, le lien c'est le pays de mon père aussi. Mon père qui a jamais quitté son pays de sa vie, qui est le contraire de ma mère qui a immigré. On comprend qu'ils étaient divorcés depuis quelque temps, depuis longtemps déjà, au moment où on est parti. Mais mon père est resté toujours derrière, donc c'est un père distant, à distance. Et donc c'est aussi le pays de mon père. C'est beaucoup ça aussi, un pays qu'il a beaucoup aimé. Lui, c'était un grand patriote, c'était un homme qui ne jurait que par la langue hongroise, la culture hongroise, les poètes hongrois, l'histoire glorieuse de ce pays, un peu tous ces côtés un peu irrationnels, mais qui font en sorte qu'on est attaché à un pays, à son pays d'habitude.
Qu'est-ce que ça veut dire pour lui peut-être et pour toi encore aujourd'hui d'être hongrois ou d'être un peu hongrois?
Les raisons de ces recherches aussi, c'est parce que mon père, il est mort. Donc, il est mort assez jeune, il y a une quinzaine d'années déjà. Donc, quand je retourne en Hongrie, c'est aussi l'absence de mon père que je retrouve. C'est un peu bizarre de retourner en Hongrie, puis ah, il n'est pas là. J'ai des amis, j'ai quelques autres membres de la famille, de plus en plus rares en fait. Mes grands-parents sont morts, évidemment. Mais pour lui, des gens qui ne quittent jamais leur pays, en tout cas qui ne réfléchissent pas à leur pays en tant qu'immigrants, leur pays, ils ne se posent pas des questions sur leur appartenance. Hein. Ils sont hongrois, allemands, chinois, et même canadiens pour beaucoup.
C'est pris pour acquis.
C'est ça. C'est, l'identité, ce n'est pas quelque chose qu'on questionne. On ne se demande pas si, ah oui, est-ce que je suis plutôt québécois ou canadien ou nord-américain ou francophone ou anglophone ou allophone. Pour mon père, c'est pas compliqué, ces questions-là. C'est aussi une vision très idéalisée d'un pays qui n'a rien d'idéal. Mon père vivait pauvrement dans un pays qu'il idéalisait. Idéalisait la culture, la poésie beaucoup en ce qui le concerne là. Pour lui là, il n'y a pas plus grand que la plus beau, plus grand diose que la littérature hongroise. Le seul problème de la littérature hongroise, c'est que personne d'autre est capable de l'apprécier, à part les Hongrois. Mais
c'est
si elle avait été...
facile.
Mais si elle avait été... Si la Hongrie pouvait conquérir le monde, là, tout le monde serait d'accord avec mon père que c'est quand même mieux que Shakespeare, puis Molière, puis Brecht. Puis... Donc, c'est ça aussi, c'est cette conviction que au fond, on est quand même meilleur que les autres. Il y a ça aussi, hein, dans le patriotisme. Et que les immigrants, c'est un sentiment que les immigrants que j'ai connus, que je connais, ils s'en départissent pas souvent, pas toujours. Les Hongrois qui sont ici depuis 20, 30, 40 ans que je connais, ils pensent quand même que la Hongrie, c'est mieux, que c'était mieux, que l'école là-bas, ça marchait quand même mieux, que le civisme, c'est quand même mieux, la culture, les codes, les mœurs, quand même, on va se le
Les
dire.
enfants étaient mieux élevés.
Ah, certainement, certainement. Parce que ça, l'éducation des enfants, c'est une affaire éminemment culturelle. On ne le réalise pas. Pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai pas d'enfants. Donc, cette question, l'éducation des enfants, je le vois à travers le système scolaire, à travers... l'éducation de ma nièce, des enfants de mes amis. Mais bon, j'ai pas une expérience de premier plan. Mais oui, l'éducation des enfants, c'est très culturel. Et on pense quand même, souvent, que l'éducation qu'on a reçue de nos parents, ça avait quand même du bon sens. Malgré tout, les gens sont quand même convaincus que comme, la façon que ça se passait quand ils étaient enfants, c'était quand même mieux que comment ça se passe aujourd'hui. Et donc, ça, pour un immigrant, ça prend une autre dimension aussi où on dit, ben, dans mon pays, c'était mieux. Mais je fais des généralisations un peu par boutade, mais c'est juste pour montrer que. Notre première éducation, ça sort pas de nous. Notre culture d'origine, hein, c'est dur de l'extraire.
On a sorti le gars de la Hongrie, mais on peut pas sortir la Hongrie du gars.
Ouais, puis moi, en plus, disons que par mon rôle d'écrivain, je m'excentre un peu plus. Je pense que je fais des analyses que tout le monde ne fait pas nécessairement. Fait que j'ai des remises en question que tout le monde n'a pas.
Peux-tu m'en donner un exemple? Ou une façon dont tu perçois cette synchronie ou cette hétéronomie entre ta vie, le milieu dans lequel tu vis, et tes origines ou un idéal?
Ouais. C'est drôle parce que me vient des exemples très terre à terre. Je m'assois à table avec des amis, avec des enfants, puis les enfants commencent à manger avant de se dire bon appétit. Ça me scandalise au plus haut point.
Je te
On me
comprends tellement. Et pourtant, je suis québécoise, mais je me sens de la même façon avec les anglophones ici.
Ah oui, ah oui.
Oui, on
Ah ben
commence à
moi.
manger.
Ah
Scandale.
moi, mon doigt accusateur est vers des Québécois de souche. Hein. C'est les détails, mais c'est les choses qui. Où j'entends encore ma mère me dire Hey! On touche pas notre cuillère avant que tout le monde soit assis, avant qu'on ait dit bon appétit, avant que tout le monde ait dit merci. Le petit moment qui est un peu dans l'éducation hongroise où il y a toujours un petit moment où il faut serrer les fesses un peu là, avant d'agir.
Un peu plus de rigidité, peut-être?
Ouais, clairement, clairement. Et en même temps, je repense à mes souvenirs d'enfance. une liberté absolue. Absolue, c'est un grand mot, mais où franchement, on ne se préoccupait pas de ce qu'on faisait tant qu'on n'était pas à la vue des adultes. Il y avait le code, il y avait la sévérité, où il fallait serrer les fesses quand on était dans le champ de vision des adultes, et quand on n'était pas dans le champ de vision des adultes, puis ils nous balançaient hors de leur champ de vision, ils se balançaient de ce qu'on faisait là. On pouvait disparaître dans le quartier ou à la campagne durant les vacances pendant des demi-journées. On faisait des choses absolument hallucinantes, puis on ne nous demandait même pas, puis qu'est-ce que vous avez fait? Tant que c'est pas la police qui nous ramenait. Mais j'étais vraiment, j'étais un enfant sage, cela dit, c'était pas des 400 coups, c'est juste, peut-être une plus grande autonomie, je dirais. Une plus grande responsabilisation. Ça, c'est clair. Ça, c'est. On m'a jamais. Moi, j'ai jamais reçu un lift de toute mon enfance d'un endroit A à un endroit B. Jamais. On m'a jamais accompagné à l'école, y compris en première année, y compris. C'est ma grande sœur qui m'accompagnait à la garderie. Puis on devait prendre un tramway, on devait marcher. Là, c'était deux petits enfants de 7 et 4 ans qui se promenaient dans la ville, une ville de plusieurs millions d'habitants. Ça, mais c'est pas juste mes parents ou ma mère qui me donnaient cette autonomie-là. C'est aussi la société, qui s'habitue à la présence de petits enfants dans le transport, dans la rue. Bon, c'est ça. Puis ici, tu vois ce que je constate sur cet exemple-là, très concret, c'est à l'école primaire, les enfants sont toujours présents, puis cette autonomie commence à 12 ans.
C'est très vrai, c'est très vrai. Et c'est pire, je pense qu'on peut dire c'est pire maintenant, je crois, que c'était il y a 40 ans. Faut dire, là, moi j'ai été élevée en milieu rural, puis pour aller n'importe où, il fallait prendre une voiture, là, donc c'était limitant. Mais moi aussi, quand j'étais petite, là... Mes parents travaillaient, puis moi, j'étais campée, jouer avec mes amis de l'autre bord de la rue, mais je sais pas comment c'était en ville à cette époque-là, mais clairement, il y a aussi un effet, je pense, générationnel, où il y a eu toute la peur aussi des kidnappings et
Oui,
autres
c'est ça.
horreurs, mais maintenant, les enfants ont un statut de ressources précieuses. Peut-être qu'ils avaient pas... Quand on était petit, mais certainement, je peux apprécier la liberté accrue d'être dans une grande ville européenne à 7 ans, à se promener tout seul.
Ouais, mais ça, c'est pas quelque chose de spécial, hein. C'est
Non, c'était ça, c'était
ouais.
ce que tu prenais pour acquis. On
Mais
parlait de culture, hein.
parlant de retour en Hongrie, moi, à 13 ans, je suis rentré en Hongrie en avion tout seul. Je suis monté dans l'avion à Mirabel. J'ai fait un changement à Amsterdam et je
Tout seul.
suis allé jusqu'à Budapest tout seul. À 13 ans. Puis ça, je l'invente pas, là. C'était ça. Il y avait comme. C'était même pas un enjeu. Ben, c'est un peu un enjeu, là. OK, où est-ce que je m'en vais? On m'a préparé, on m'a dit ce qu'il fallait que je fasse pour arriver à bon port. C'était pas. Mais bon, mais ça, c'est aussi, peut-être aussi, c'est ça, avoir 40 ans, c'est qu'on idéalise notre jeunesse.
J'allais le
Puis
dire.
peut-être, c'est ça. Puis
Les
ça, c'est
jeunes de nos
sûr.
jours.
Les jeunes de nos jours, puis de se penser un peu supérieur, d'avoir vécu une autre époque. Mais parce qu'on pense ça, parce qu'on croit que ce qu'on est devenu, c'est au fond, c'est bien. Et c'est à cause de toutes ces étapes-là. Puis je pense que je suis un peu devenu parce que ce que je suis devenu, parce que je prenais l'autobus tout seul quand j'étais enfant. Mais on se fait des récits, on se fait des récits. Je ne suis pas convaincu à 100%, mais ce que je remarque, c'est que j'ai cette nostalgie-là où j'idéalise ma jeunesse, mon enfance, hongroise ou pas par ailleurs, hein.
Oui, ça me fait penser à mon père qui, 13e de 17 enfants, allait à l'école nu-pieds dans la neige à 5 km, puis ça montait la côte dans les deux directions. Tu sais. Ça, c'était le bon vieux temps. Et de nos jours, les enfants, ils
Est-ce que
savent
tu
pas à
penses
quel
que
point leur vie est
c'était...
facile.
Est-ce que tu crois que c'est vrai ce qu'il racontait? Jusqu'à quelle mesure c'est vrai? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce qu'ils avaient vraiment pas de chaussures? Est-ce qu'il a manqué de chaussures une semaine, puis on a fait un récit qui illustre toute sa
Exactement.
jeunesse?
Ah ben c'est vrai, moi, j'ai aucun doute que je sais que la famille de mon père était dans une assez grande pauvreté là, des années 40 dans le Québec profond. Je suis sûre que c'était pas en côte là, dans les deux sens. Mais effectivement, je pense qu'on idéalise. Et certainement, mon père, comme tu dis, lui a construit son identité. Sa force, sa confiance en lui dans ces récits-là aussi, de se dire j'ai survécu à des
À
problèmes tellement
l'adversité.
plus grands, à l'adversité, voilà, et donc aujourd'hui je suis capable de faire face à n'importe quoi. Puis je pense que c'est pareil, c'est quand tu décris cette autonomie-là, ben ça te donne la capacité aujourd'hui d'accomplir ce que tu veux accomplir de manière autonome, par exemple.
Et plus tard, parce qu'on parlait de mon intégration, j'avais de l'adversité aussi, hein, un nouveau groupe, une nouvelle langue, avec des gens qui viennent de partout, l'adolescence qui coïncide avec ces changements-là. Alors là, à savoir, c'est quoi, quel enjeu que j'avais à l'époque qui relevait de l'adolescence, puis ou de l'immigrant adolescent. La recherche d'identité, hein, c'est vrai dans une société à 100% homogène qui ne bouge pas. Et ça prend une autre dimension avec pour un immigrant, un adolescent qui arrive ici. Et en plus de trouver une nouvelle culture, de devoir s'intégrer dans des codes qu'il ne connaît pas, en plus, il vit sa puberté.
C'est pas facile. Il se passe
Mais
beaucoup de
non.
choses en même temps.
Ouais, mais c'est pas non plus difficile pour tout le monde, hein. C'est pas non. Mais je pense que, à l'instar de ton père, je crois qu'effectivement, tu le dis bien, on crée notre mythologie personnelle basée sur les obstacles qu'on a franchis, l'adversité qu'on a affrontée, puis regarde-moi, moi j'ai réussi mon intégration, puis j'ai quelque part, je suis fier de ce que je suis devenu avec tout. Ah bon, je m'imaginais pas, je savais pas ce que j'allais devenir, mais aujourd'hui quand je me regarde, c'est bon, là j'ai des choses que qui sont pas parfaitement comme je voudrais, probablement, mais je ne peux pas trop me plaindre.
J'aimerais justement parler de ton milieu de vie aujourd'hui. À quoi ça ressemble ta vie en milieu, plutôt vers la fin de quarantaine? Qu'est-ce qui est important autour de toi aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qui a le plus de poids pour ton existence?
Mes relations humaines, sans aucune hésitation. Matériellement, j'ai pas de problème. Je gagne plus d'argent que ce que j'en dépense depuis 15-20 dernières années. Fait que ça m'a permis d'avoir un bel appartement, de voyager, de pas trop regarder le prix des choses. Sachant que je suis vraiment, franchement, pas un dépensier, puis un grand consommateur, là. Je fais pas des énormes salaires, loin de là. Mais tout simplement, j'en dépense moins que ce que je gagne. Et donc, ça me donne un espace de vie où j'ai pas trop de soucis, matériels. Et ce qui m'est important, c'est mes amis. Je dirais, moi, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de bons amis, je dirais même comme ça. Et c'est aussi le résultat de, ben, je suis une personne formidable, tout le monde veut être mon ami, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi parce que j'y tiens, parce que pour moi, les relations personnelles, c'est ce qui m'a toujours été importante. Pour revenir à mon immigration, j'étais un petit garçon bien populaire quand j'étais enfant, j'avais beaucoup d'amis. Ben, non, beaucoup. J'avais des amis francs. C'était pas un problème pour moi. Évidemment, quand j'arrive ici, c'est plus compliqué. Donc, quand j'ai commencé à me trouver des amis, mais j'ai travaillé pour les garder à long terme. Puis, moi, j'ai pas de famille ici. J'ai la petite famille de ma sœur et ma mère habitent à Toronto. J'ai une très très peu... J'ai un cousin, une cousine en Hongrie. Moi, j'ai pas d'oncle sur qui je peux compter pour me déménager. J'ai pas personne qui va me léguer de l'argent, aucunement. Je ne peux compter sur moi-même et sur mes amis. Mon milieu social, ça ne peut être autre chose que ça. Puis je suis assez chanceux parce que je pense que parce que je suis bien entouré. Je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. Il y avait un autre élément à ta question.
Ben, je suis curieuse de savoir, je savais pas que ta mère et ta sœur étaient déménagées à Toronto. Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça fait depuis...
Non, une douzaine d'années.
Est-ce que... Dis-moi plus, en fait. Est-ce que ça a changé votre relation? Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu t'attendais ou...
Bon, ça s'est fait sans ma permission, puis c'était pas un grand enjeu. La petite histoire, c'est que ma sœur, durant sa trentaine, est retournée vivre en Hongrie. Donc, ma sœur a grandi ici, a fait elle est arrivée ici adolescente, elle travaille ici dans sa vingtaine, tout ça. Puis à un moment donné, elle s'est retrouvée en Hongrie, puis elle n'est pas revenue, sans l'avoir planifié, au point où son appartement est encore. Il y avait encore toutes ses affaires dans son appartement qu'elle a dû gérer à distance. Puis elle est restée là, elle a rencontré un gars, elle a eu un enfant. Et c'est son mari qui voulait, hongrois, qui voulait venir vivre au Canada. Et lui, il parlait anglais, donc quand ils sont revenus vivre dans leur quarantaine, à 40 ans, hein, ma sœur est revenue en Hongrie avec son mari et ils se sont installés à Toronto. Ils avaient une petite fille. Ma mère a déménagé, elle prenait sa retraite à ce moment-là, puis est allée les rejoindre avec son conjoint. Là-bas, qui également avait des enfants à Toronto. Donc, je n'étais pas du tout dans l'équation. Et ça me fait. Ben, ça fait moins de pression sur moi pour aller souper chez ma mère chaque semaine. J'avoue que ça ne me déplaît pas, faut pas le dire. Donc, j'y vais une fois par année à Noël, puis sinon on se parle au téléphone.
C'est intéressant de penser, t'sais, ta soeur et toi, vous veniez du même pays, de la même culture, de la même famille, et vous avez pris des trajectoires, si je quand même assez différentes. Vous êtes tous les deux dans le même pays présentement, mais j'ai comme l'impression que tu t'es beaucoup davantage pris les pieds dans le Québec et intégré dans les institutions québécoises aussi, avec ton groupe d'amis, tandis que ta sœur peut-être gardé une relation plus proche avec la Hongrie. Est-ce que
Oui,
comment t'expliques ça?
En gros, c'est ça. C'est-à-dire que ma sœur a toujours gardé plus de liens avec la Hongrie, malgré tout ce que j'ai raconté sur mes liens. En fait, elle a développé moins elle s'est moins enracinée ici. Bien qu'elle avait des amis, une vie sociale. Mais elle s'est toujours sentie étrangère. Peut-être elle a ces trois rencontres dont je parlais, langue, culture, les gens. Ça s'est passé autrement pour elle. C'était plus naturel aussi pour elle de retourner en Hongrie, alors que moi, j'avais jamais envisagé. Franchement, là, moi, autant à 22 ans qu'à 32 ans qu'aujourd'hui, moi, aller retourner vivre en Hongrie, me prendre un appartement là-bas, j'irais à plein d'autres places avant d'aller en Hongrie. Bien que c'est un pays que j'aime bien là, à fréquenter comme touriste, un peu comme étranger qui connaît ses reliefs puis ses couleurs là, qui est capable de se fondre quand même dans le décor, la Hongrie me convient. Pour y vivre, non, ma sœur, elle l'a fait cette expérience et je pense que ma sœur pourrait le refaire. Je pense que ma sœur pourrait retourner. Je pense que ma sœur pourrait s'installer aux États-Unis, elle pourrait s'installer ailleurs. Elle a moins cet attachement, ce désir, ce besoin de prendre racine. Moi, j'ai ça. Moi, je veux ouvrir la télé puis savoir qui parle toujours. Moi, là, on rajoute une panneau dans ma rue, je veux savoir qui a pris la décision et pourquoi et pour combien de temps. Je veux pas, comme si je voulais pas recommencer ma vie une autre fois. Moi, je veux connaître l'espace que j'habite. C'est pour moi, c'est une façon de maîtriser ma vie que de connaître où j'habite. Et c'est pour ça aussi que je veux que les gens qui arrivent s'enracinent aussi. Apprennent la langue, connaissent les codes, participent aux activités, vivent dans la mixité. Se fassent des amis ici, veuillent rester ici. Pour moi, c'est important pour notre vivre ensemble. Moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on s'entend bien dans une société, c'est quand tout le monde veut y rester, quand tout le monde connaît son histoire, sa culture, ses codes, quand tout le monde parle une même langue. C'est ça mon espèce de dada plus politique.
Je pense que tu captures très bien, tu dis la maîtrise de sa vie. Puis, il y a probablement du monde qui ont une façon différente d'avoir le sentiment qu'ils maîtrisent leur vie. Peut-être que pour certaines personnes, c'est la liberté de pouvoir aller n'importe où, de pouvoir faire n'importe quoi, mais je m'identifie aussi à ce sentiment-là de comprendre comment les décisions sont prises et d'avoir l'impression que tu pourrais faire partie de la décision si tu veux. Tu n'es pas toujours obligé de t'impliquer à décider quel panneau ils vont mettre sur ta rue, mais si ça t'est important, mais tu peux t'engager dans le processus d'une façon ou d'une autre. Et c'est quelque chose que tu as fait, je crois, beaucoup au cours de ta vie. C'est un peu comme ça qu'on s'est connus dans le bon vieux temps du mouvement étudiant à l'UQAM. Et j'aimerais donc t'amener sur le terrain de cette question-là des choix. Où vais-je? Penser à des choix, des petits choix, des grands choix que tu as faits. On a parlé, c'est un peu une non-décision de décider de ne pas retourner en Hongrie ou de décider de pas aller ailleurs. Tu décides par défaut, si on peut dire, de rester dans ton environnement, au Québec, à Montréal. Est-ce qu'il y a des choix qui t'apparaissent comme plus importants, des moments charnières dans ta vie qui déterminent là où tu te trouves aujourd'hui? Et peut-être qu'on pourra parler après de choix peut-être à venir qui déterminent là où tu pourrais te trouver plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans, si on avait cette conversation-là pour le prochain podcast, la soixantaine.
J'ai hâte. Pour ce qui est de la question des choix, J'ai pas l'impression d'en avoir fait tant que ça dans ma vie. J'ai saisi quelques chances, quelques opportunités qui s'étaient présentées sur mon chemin. J'en ai peut-être laissé passer d'autres que j'ai pas vues, que j'ai pas où j'ai laissé où les choses sont pas arrivées comme je le voulais, mais j'ai pas l'impression vraiment d'avoir fait des grands choix de vie, hein, qui ont été bien sûr le fait d'aller étudier en sciences politiques à l'UQAM au lieu d'aller en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Moi, j'avais fait ça comme choix. Moi, je voulais aller en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Puis, j'étais trop poche, j'avais pas les notes. Puis, ils m'ont pas pris. J'avais un de mes amis du secondaire que tu connais, mon ami Farouk, que je revois à ce moment-là, puis qui me dit, on s'était pas vu depuis quelques temps, puis il me dit, ouais, moi je m'en vais en sciences po à l'UQAM. Je dis, ben moi aussi, parce que, ouais. Puis là, ok, je suis allé en sciences politiques sans savoir exactement c'était quoi la science politique. Je suivais l'actualité, fait que je pensais que quelqu'un qui suit l'actualité puis qui aime ça, on va étudier l'actualité. Tout ça, c'était très flou dans ma tête de comment la société fonctionnait. Franchement, là. Fait que bon, évidemment, ça c'est un choix, on peut dire, mais qui a été déterminant. Peut-être pas chaque tournant qu'on prend à une intersection est déterminante, mais il y a quand même quelques grands moments. J'ai laissé tomber, moi je faisais du sport, je faisais de l'escrime longtemps. À un moment donné, j'ai arrêté, sans trop, j'y allais plus. Puis j'ai arrêté de m'inscrire aux compétitions. Je suis devenu entraîneur d'escrime, je préférais ça. Mais je n'ai même pas eu un moment où je me suis dit, j'arrête l'escrime. Ouais, mais j'ai eu des confrères, des frères d'armes et des sœurs d'armes qui ont vraiment pris la décision, moi, à partir de l'an prochain, j'arrête l'escrime. Moi, même ça, c'est pas arrivé comme ça. Le non-retour en Hongrie, c'est juste une question là-dedans, à ce sujet qui s'est jamais vraiment posé. Pour ma vie professionnelle, on m'a fait miroiter des possibilités. Parfois j'ai accepté, parfois j'ai pas accepté. Aujourd'hui, je suis un consultant en participation citoyenne. Tu m'aurais dit il y a 15 ans, 20 ans que je serais un expert de la participation citoyenne. Je pense que ça m'aurait pas tenté.
Moi, ça m'aurait pas surprise, par contre.
Ok, ben c'est ça. Non, c'est pas très loin en fait, effectivement.
Mais comment t'en es arrivé là à être un consultant en participation citoyenne? Premièrement, qu'est-ce que ça fait un consultant en
Bon,
participation citoyenne?
très concrètement, je travaille depuis quelques années pour l'Office de consultation publique de Montréal, où j'organise des consultations publiques pour la ville et j'écris des rapports de consultation publique. Puis je prends puis je suis pas un, je suis un contractuel, je fais consultation par consultation, j'ai un contrat. J'ai travaillé aussi longtemps pour mettre en place des projets d'éducation à la démocratie pour les jeunes, pour les adolescents, mais aussi pour les jeunes adultes, dans des organisations de participation citoyenne là, à Montréal. J'ai notamment travaillé longtemps à mettre en place un projet pour faire des simulations électorales lors d'élections. Alors aujourd'hui, mon projet que j'avais fait est implanté au Québec. Quand on va voter au Québec, il y a le petit bureau de vote. Ou si tu vas avec tes enfants, mais tu peux y aller avec ton enfant qui vote aussi avec les parents. Fait que ça, j'ai fait ça. C'est comme une créa, tu vois, ça là. Je pense que ça n'existerait pas si j'existais pas, mais à peu près personne n'est au courant. J'ai pas cette envie non plus de la gloire. Ça c'est une affaire aussi je veux pas être connu pour ça, disons. Ben, c'est pas que j'accepterais. Je renie pas rien, mais c'est pas important pour moi. En fait, tout ce qui est ma vie professionnelle, je te dirais, pour revenir à une question antérieure, elle n'est pas si importante pour moi. Moi, c'est pas. J'ai pas beaucoup d'ambition professionnelle ces temps-ci, depuis les dernières années. Je me suis organisé une vie où je travaille 8 mois par année et plus ou moins. Et que le restant du temps, je le consacre à mes loisirs, je consacre à des voyages, je consacre à l'écriture. On n'en a pas encore parlé. Mais là, j'ai des ambitions. Pas dans les voyages aussi, j'ai des ambitions, mais dans l'écriture, la création, c'est plus ça que où je me vois pour l'avenir, disons. Puis ça aussi, ça n'a jamais été un choix. Hein. J'ai écrit un. Je peux-tu juste parler d'un peu
Oui.
de l'écriture? C'est que tout ce qu'on fait, on est capable. Il est possible pour tout ce qu'on fait de retracer l'origine, de trouver un déterminisme. Tu sais, tantôt, tu disais, je m'occupe de la participation citoyenne, tu m'as connu à l'époque où je participais comme citoyen dans la vie publique à l'UQAM, et que, bien sûr, des études en sciences politiques, l'implication, l'engagement politique, l'intérêt pour la démocratie, bon, je suis devenu un consultant en participation citoyenne. Et je pourrais refaire la même chose pour l'écriture. Moi, j'ai toujours aimé les livres. Sans avoir été un énorme lecteur, j'ai toujours été quand même, j'ai toujours lu. J'ai jamais lu beaucoup, mais j'ai toujours lu. Quand j'étais à l'UQAM, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais rédacteur en chef du journal étudiant. J'essayais d'écrire des petites chroniques où je me trouvais drôle, que je trouvais assez difficile à faire. C'est pas ça. Mais où je me voyais un peu, ah oui, je pourrais écrire des chroniques dans la vie. Et là, parenthèse de 15 ans, je deviens chroniqueur au journal Métro. Un peu par hasard, je vois une annonce passer, ils veulent des chroniqueurs, des nouvelles voix, blablabla. Puis j'envoie un texte, puis le rédacteur en chef, il me dit, ah ben, envoie-nous-en d'autres, puis on va te payer. 50 piastres le texte. Qui me prenait une semaine à écrire.
Je sais.
Mais l'argent, comme je te dis, pas important. L'écriture, ouais, pourquoi pas? Je me suis investi là-dedans, là. Moi, mes chroniques, là, je voulais que ça soit des petits chefs-d'œuvre. Puis ça a un peu fonctionné, pas que ce soit des chefs-d'œuvre, mais les gens appréciaient. Il y avait un style, il y avait de l'humour, il y avait un peu de propos pas trop idiot. Et donc, j'ai écrit pendant 1 an et demi, comme ça, des chroniques. Puis après, ils m'ont dit, ah ben, on n'a plus de place pour toi, puis c'était fini. Puis je me suis pas battu pour ça. Mais c'était comme la fin d'une parenthèse. Puis après, j'ai eu une autre expérience professionnelle, je ne vais pas m'étirer là-dessus, mais j'étais attaché politique, j'ai travaillé pour le gouvernement, puis là j'ai eu la job de 60 heures semaine, se lever à 5 heures du matin, lire la revue de presse, brasser des grosses affaires, habiter à Montréal, à Québec, l'aller-retour, gérer une ministre qui est jamais contente. C'était ça ma vie pendant 1 an et demi. Elle a perdu ses élections. Et là, j'ai dit, oh non, je pense que c'est pas ça que je veux faire dans ma vie. Alors que j'ai longtemps rêvé d'être attaché politique. Fait que là, j'ai fait encore une fois quelque chose que j'ai longtemps pensé faire. Je l'ai fait. Puis après, je dis, ouais, ok, bof, la prochaine fois, je serai ministre. C'est plus ça qui m'intéressait dans l'opération. J'avais un peu compris qu'il faut être ministre pour que la politique soit intéressante. Et là, j'avais un an de. Voyons, j'avais mon salaire pendant un an sans devoir travailler. Parce que j'étais un attaché politique qui a perdu ses élections. Et pendant cette année-là, je m'étais dit que je vais écrire un livre. Mais ça aussi, ce n'est pas un choix que j'ai fait. J'ai commencé à écrire un truc. J'ai un peu triché. J'ai pris des chroniques que j'avais déjà écrites pour le journal Métro, qui donnait un peu le ton de mes textes. Et j'ai écrit donc sur le livre dont on parlait plus tôt, Rhapsodie québécoise, qui était en fait une quarantaine de chroniques, de vignettes sur mon parcours d'immigrant des 30 dernières années. J'avais alors 40 ans. J'avais 40 ans quand c'était publié, je trouvais que c'était un beau chiffre. Puis là, pour la première fois, j'avais l'impression dans ma vie d'avoir accompli quelque chose. J'ai jamais réussi à faire quelque chose d'aussi difficile, d'une fa certaine façon, en tout cas d'aussi ambitieux, d'aussi personnel. Ça, c'est comme personne d'autre. C'est pas que j'étais au bon endroit au bon moment. C'est pas que j'étais chanceuse. C'est pas que j'ai un peu profité du travail des autres. Ça, c'était moi. C'était mes idées. C'était mes textes. C'était mon livre. Et franchement, j'étais fier de ce que j'avais accompli à ce moment-là avec ce livre-là. D'autant plus que c'était bien reçu. J'en ai vendu 7-8 000 exemplaires, ce qui est pas mal au Québec. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était bon. Il y a des gens qui ont commencé à me dire que pourquoi t'écris pas un autre? Là, tout d'un coup, je fais partie du milieu littéraire. Ça veut dire que je suis dans des salons du livre, qu'il y a des gens qui me connaissent, que je connais des gens, que je commence beaucoup plus à lire la littérature actuelle aussi. Je suis devenu un plus grand lecteur depuis. Et là, j'ai eu un filon pour écrire donc ce fameux deuxième livre que je pensais jamais faire. Moi, quand j'ai écrit le premier, je pensais que c'est bon. Là, j'ai raconté ma vie, il n'y a plus rien d'autre à raconter. Et il y avait des choses à raconter, justement, cette vie avant que j'arrive au Québec et ma relation aujourd'hui avec mon pays d'origine, avec le pays de mon père, avec mes ancêtres, avec. Et ça prend la forme d'un roman. Je suis en train de le terminer, ça va être publié l'année prochaine. Et franchement, mon avenir est un petit peu lié à ce livre, j'ai l'impression. Tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être ça que je veux faire dans la vie.
Peut-être que notre entrevue d'aujourd'hui, c'est la première entrevue de ton futur tour de promotion du futur roman que tu es en train d'écrire. En fait, c'est même pas un futur roman, ce stade-ci. J'ai très, très hâte de lire ça. Je pense que ça va être. En fait, il y a beaucoup de thèmes qui me sont chers aussi, là, comme on vient d'en parler. Je veux reculer sur quelque chose. Que tu as mentionné parce que tu l'as mentionné, tu as été impliqué en politique et je suis à peu près convaincue que je ne serais pas la seule à avoir pensé que on devrait essayer de recruter Akoch pour se présenter aux élections. Est-ce que ça t'est arrivé et pourquoi ne pas l'avoir fait? Parce que je présume que oui. Où est-ce que tu y as déjà pensé?
Mais j'ai déjà pensé faire la politique. Je pense que quand on s'est connus, il y a jadis naguère, je pense qu'on avait un peu tous, ceux qui s'impliquaient en politique à l'époque, se voyaient un petit peu attachés politiques, députés, ministres. Bon, J'allais pas jusque-là, mais oui, mais moi, on m'a proposé de me présenter la première fois. J'avais 23 ans pour être candidat poteau dans l'ouest de Montréal. Et j'étais sur le point d'accepter, puis ah, peut-être j'ai pris une décision à ce moment-là. Oh, ça me tentait pas. C'était comme une sensation comme ça que. Ça, j'ai jamais regretté, hein. À 23 ans, on finit par dire des niaiseries. D'un côté, j'avais beaucoup peur de ça, que moi, j'étais très volubile. Aujourd'hui, je pèse un peu plus mes mots qu'à l'époque. Moi, là, je me serais retrouvé dans un scandale. J'avais comme l'idée de ça. Parce que j'aurais dit quelque chose. Puis l'autre chose aussi, c'est que je voyais pas, j'avais pas cette ambition-là. Moi, j'avais. Ça, c'est une bonne décision, je pense, que j'avais pris. Moi, on m'a proposé, presque à chaque élection, je reçois un appel pour dire, ça ne tente pas de le présenter. Et à chaque fois, je dis, ben, je fais autre chose. Mais je vous encourage dans votre beau programme, pour votre beau programme. Et des fois, je trouve même pas que c'est un si beau programme que ça. Mais moi, j'ai du respect pour des gens qui s'impliquent, qui font du militantisme. J'en ai fait. La personne qui appelle pour proposer, pour recruter des candidats, j'ai du respect pour ça. Mais j'ai pas. Moi, des fois, ouais, des fois, quand je suis sur le party, tu sais, je me dis que, ah oui, je voudrais être ministre de l'immigration. Mais dernièrement, je voudrais être ministre de la culture. Mais la politique, c'est. Mais parce que je l'ai vu, la politique de l'intérieur, puis je pense que je serais un bon ministre, pour vrai. C'est un peu. C'est super prétentieux de dire ça, mais je les vois aller, là. Moi, je pense que je serais un bon ministre. Je ferais pas un bon ministre de la santé ou de l'économie, mais je pense qu'à la culture, en immigration, à l'éducation, je pourrais faire. J'aurais quelque chose, j'aurais une vision. Gérer l'appareil, gérer la politique, faudrait que je sois bien entouré. Faire les soupers spaghettis, les beaux sourires, s'assurer que son image publique soit toujours parfaite. Ça, je serais moins. Ça me tannerait de toujours me checker, d'être toujours checké. Tu sais ce que j'aimerais pas? Les insultes. Moi, j'haïssais ça, là, tu sais, quand j'étais attaché politique, puis les insultes que ma ministre recevait,
Les
mais
vacheries,
gratis, les vacheries, ou bien des critiques, pour le dire avec un euphémisme, qui n'étaient pas constructives,
là.
ça va, mais la mauvaise foi permanente. La mauvaise foi, c'est que tout le monde pense que tu essaies de les crosser. Tout le monde présume que tu sais pas ce que tu fais. Tout le monde présume que c'est de l'incompétence. Tout le monde. Parfois, c'est vrai. Il y a de l'incompétence, on sait pas où on va, ils savent pas où ils vont. Mais pour vrai, les politiciens que j'ai connus, c'est quand même du bon monde.
Font ce qu'ils peuvent.
Ils font ce qu'ils peuvent.
Leur gros
Parfois, ils
possible.
sont juste pas assez bons. Souvent, ils savent pas où ils s'en vont. Et je pense que là, je serais un peu meilleur. T'sais, si je suis ministre de l'immigration, j'aurais une idée à quoi sert le ministère de l'immigration.
Mais si on te place à l'agriculture, tu vas peut-être trouver le temps long. Ça peut toujours
Exact.
arriver. C'est toujours un risque.
Mais pire que ça, être simple député ou être député de l'opposition. Et je les respecte pour vrai parce que j'en connais là. C'est ça aussi, avoir 40 ans, puis avoir plus. C'est qu'on connaît des gens qui font de la politique, là. Il y en a que je connais très bien. Puis être dans l'opposition, c'est long, longtemps. T'es loin de changer le monde, surtout dans un système parlementaire où l'apport des députés de l'opposition doit être la critique médiatique, grosso modo. Et qu'ils vont tous te dire, oui, mais dans les commissions parlementaires, là, tu peux vraiment modifier les choses, puis contribuer, puis c'est pas faux, mais ça me tenterait pas, disons. Pas, parce que c'est pas une affaire, ok, je vais faire ça 2 ans, puis bon, je lâche. C'est un engagement personnel, mais c'est un engagement pour du monde, là. Tu les as niaisés, là, t'as mis tes pancartes, t'as ramassé de l'argent. T'es pas pour démissionner après... même après 4 ans, il faut se représenter. Là, tu viens d'avoir... c'est un engagement à long terme. Moi, si on me dit aujourd'hui, c'est que si on était dans un système américain où les ministres sont pas élus, j'appellerais François Legault pour dire, hey, si tu as besoin d'un... comment ils appellent les...
Secrétaire d'État.
Un secrétaire d'État... Si tu as besoin d'un secrétaire d'État en culture, je suis disponible. La facilité, j'aimerais ça. Parce que j'aimerais que mes prochaines années, mes prochaines décennies soient faciles. Je veux avoir une vie en santé, je veux pouvoir voyager, je veux vouloir aller au resto quand j'ai envie, aller au théâtre sans me demander si 40$ pour un billet, est-ce que je suis capable de le payer. Voir mes amis en santé, je te dirais, parce que là, je nous vois vieillir, puis il y a des soucis de santé qui commencent déjà à se montrer, pas pour moi, là, chanceux, mais j'en vois des gens qui ont, oh, tout d'un coup, sont ralentis, tout d'un coup, une petite affaire, puis une autre petite affaire, puis... Et donc, une vie facile comme ça, la lecture, l'écriture, pourquoi pas. J'aimerais ça que mon livre marche, j'aimerais ça que les gens disent que c'est bon. J'ai peur qu'ils disent que c'est pas bon, puis que je devrais être ministre de la Culture ou
Souvent, il faut
d'autres.
écrire un deuxième livre qui va être critiqué pour pouvoir écrire un meilleur troisième livre. Est-ce que tu y penses des
Et
fois à ton troisième livre?
Ben ça donne le vertige parce que ce que je suis en train de faire, c'est tellement gros, ça me prend tellement. Ça fait 2 ans que je l'écris. J'ai 350 pages d'écrites. C'est dense, c'est ambitieux, c'est en tout cas de mon point de vue. Je ne saurais même pas par où partir un troisième. Fait que j'aimerais ça pouvoir en profiter. Puis ça, moi, là, je vais au salon du livre, j'allais dans une librairie où j'ouvre juste la page livre du journal, puis je vais pas lire 99% des livres dont on parle. Ça peut passer facilement, passer sous le radar facilement. Ça peut être très bon et pas être lu. Ça peut être lu et être pas bon, soit dit en passant, je peux te donner des exemples. Fait que je veux pas être ni dans l'un ni dans l'autre catégorie, tu sais. Moi, je veux que ça soit bon. Tu vois, là, je pense que j'ai un peu envie parce que ça va être déterminant pour mes années suivantes, l'accueil de ce livre. Fait que ça me fait peur, mais en même temps, je travaille aussi pour que ça soit le meilleur possible. Mais disons, tu sais, je fais ce qu'il y a de mieux, ce que je fais à mon possible, j'y mets tout ce que je peux, puis on va me dire, ouais, c'est correct. C'est pas intéressant, c'est pas bon, ça. En tout cas, on a peur de ça, puis quand au travail, j'ai pas ce problème-là. Les gens, ils vont pas me dire. La façon dont tu fais la consultation publique, c'est pas assez créatif, ou c'est pas assez bon. T'sais. Je fais ce qu'on me dit de faire, grosso modo. Hein. J'essaye d'amener du mien, j'essaye que ça soit pertinent, j'amène mes idées, mais grosso modo, je fais ce qu'on me dit de faire. Je
C'est
n'ai
pas
pas
un
carte
jugement
blanche.
de ton identité,
C'est
mais
ça.
le livre que tu es en train d'écrire, tu t'identifies.
Ben oui,
c'est toi.
Et je parle de moi en plus. En plus, je raconte ma vie sous forme romanesque, mais quand même, les gens qui aiment pas le personnage principal, ils m'aiment.
C'est dur de pas
C'est
le prendre
trop.
personnel.
C'est dur de ne pas le prendre personnel. Puis l'écriture, c'est aussi comme tout à autre art, probablement, mais c'est quand même, ça donne le vertige aussi. Ça part quand même d'une page blanche. On peut. Il n'y a rien qui m'empêche, qui t'empêche, qui empêche qui que ce soit de prendre un stylo, de prendre un papier et de d'écrire le plus grand chef-d'œuvre du 21e siècle. C'est juste remplir du papier, hein. Mais donc c'est infini les possibilités. Donc l'écriture, tu sais jamais quand c'est bon, tu sais jamais quand arrêter, tu sais jamais comment le tourner, tu sais jamais quand tu te répètes, que tu répètes pas, que ton. Il y a mille questions qui se posent, mais je pense que le but, c'est d'en poser le moins possible. Mais quand même, hein, c'est du travail et j'ai jamais autant travaillé de ma vie que maintenant.
C'est magnifique. Moi, j'ai vraiment très hâte de lire ça. Pas de pression. Mais je pense que tu as cette capacité-là, ce talent-là de capturer dans un espace, donc sur le papier, probablement, cette confluence des temps, des identités. En tout cas, j'ai très hâte. On va continuer à parler du futur dans une minute, mais je veux discuter avec toi, peut-être brièvement, d'une décision que peut-être tu as prise ou que peut-être qui s'est prise naturellement pour toi. On a parlé plutôt de ta famille, de ta mère, de ta sœur, de ta nièce. Tu as aussi mentionné que tu n'as pas d'enfant. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que des fois tu le regrettes? Est-ce que tu dis que peut-être un jour tu auras des enfants?
Ça m'est pas arrivé. J'ai toujours pensé que j'aurais des enfants et les aléas de ma vie amoureuse ont fait en sorte que finalement j'en ai pas. C'est un sujet de mon livre. Là, je viens de dévoiler quelque chose que tu garderas juste pour toi et moi et pour ceux qui écouteront ce podcast. C'est une question que je me demande, que je me pose. Moi, j'aime les enfants. J'ai cette idée aussi de la transmission qui m'est importante. J'explore ce que je suis devenu, l'héritage culturel, parental que j'ai reçu. Et je me demande qu'est-ce qu'on fait un arri je me demande qu'est-ce qu'on fait avec un héritage quand on n'a pas d'héritier. Donc ça, c'est une question qui me tourmente, je te dirais. C'est une question assez grave où le temps devient un facteur incontournable. C'est le variable qui détermine si j'aurai un enfant un jour. Et bon, un enfant, ça ne se fait pas tout seul, même de nos jours, en tout cas, préférablement pas. Donc, c'est des décisions qui se prennent aussi dans un couple. Et je pense, j'ai pas trop envie d'entrer là-dedans, mais je pense que je suis pas malheureux sans enfant. Je pense que je serais heureux avec un enfant. La question que je me demande, est-ce que je vais être malheureux dans 5, 10, 15 ans? À être un homme qui finalement fait partie de ces gens-là qui a pas d'enfant. Ça se peut, c'est pas répulsif comme idée, mais peut-être on passe quand même à côté de quelque chose à pas avoir d'enfant. Pas peut-être, certainement on passe à côté de quelque chose à pas avoir d'enfant. Je cultive mes relations avec les enfants de mes amis, je dois dire. Peut-être. En compensation, peut-être en espérant qu'ils viennent me voir durant mes vieux jours. parce que c'est des êtres que je vois évoluer et puis que j'aime. Mais effectivement, c'est quelque chose qui m'est pas arrivé, c'est pas un choix. Un autre choix qui n'est pas un choix, une destinée qui.
Et donc, tu poses la question, je te la pose. Comment vit-on avec cette notion-là d'héritage quand on n'a pas d'héritier? Comment vois-tu, parce que, en fait, personnellement, je vois beaucoup les prochaines, disons, 20 années, là, il y a une opportunité maintenant que j'ai l'impression de contrôler un peu plus ma vie, quoique ça reste à démontrer, mais je pense qu'on a comme une fenêtre d'opportunité à notre âge où on peut créer beaucoup. Je t'entends créer ce livre, j'entends des projets. Comment tu vois la création d'un héritage? Quel héritage souhaiterais-tu laisser avec ou sans héritier? La question se pose. Ou qui sont tes héritiers
Alors,
si tu n'as pas d'enfant, tu sais?
ouais, bonne question. Ben, il y a deux parties à l'héritage, celui qu'on a reçu nous-mêmes et qu'on décide de transmettre ou pas, et celui qu'on a créé de toutes pièces là pour aller vite. Ben, évidemment, je pense qu'il y a toujours un lien. La vie n'est pas une page blanche non plus, hein, comme on part toujours de quelque chose qui existait déjà avant. Dans chaque chose que je dis, il y a un peu de mon éducation, de mes parents et peut-être de mes arrière-grands-parents. J'ai eu une très forte relation avec ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère maternelle, qui elle-même a eu une éducation, elle a traversé, elle a eu une vie du XXe siècle, donc elle est née en 1911, et elle a eu une éducation très stricte de petite bourgeoisie hongroise, une éducation du XIXe siècle. Puis elle m'a beaucoup transmis, notamment ce côté de, on dit bon appétit avant.
Les bonnes manières.
Avant de manger, et les bonnes manières, le respect des autres, le respect des autres, mais tout le côté un peu cérémonial de la politesse aussi. L'importance des amis, disons. Je la voyais avec ses vieilles amies, toujours polies, toujours là, toujours soucieuses. Fait quelque part, l'éducation que j'ai reçue, c'est un peu une éducation du 19e siècle. On peut le remonter, certaines de mes affaires qui m'énervent aujourd'hui, qui énervaient mes arrière-arrière-grands-parents. Fait que c'est sûr que si j'ai un enfant, il va dire bon appétit avant de manger. Peut-être que je ne lui mettrai pas une taloche, ce qui est également une partie de mon héritage que je n'ai pas envie de transmettre. Il y a des choses qui change pour des fois pour le mieux, je présume. Donc, ce que j'ai envie de transmettre, c'est d'abord ça. Je veux pas que tout ça s'arrête. Et peut-être mon livre est une façon aussi de compenser cet héritage. Je mets dedans tout ce que je voudrais dire à mon enfant. Fait que, puis tu sais, il y a ce livre-là d'un écrivain hongrois de Imre Kertész. Un kaddish pour un enfant qui ne naîtra pas. Un kaddish, c'est la prière qu'on a aux funérailles, qu'on dit aux funérailles. Alors, il dit une prière pour la mort de son enfant qui n'est jamais né. Lui qui est un enfant de la déportation, de l'Holocauste, et qui à ce moment-là décide, lui, de ne pas avoir d'enfant parce que dans ce monde-là, il n'en veut pas en mettre un autre. Fait qu'il a écrit ce livre-là, Kaddish, pour un enfant qui ne naîtra pas. Mais j'en suis pas là. Hein. Moi, mais c'est l'idée de léguer un livre que je pourrais presque dédicacer à un enfant qui ne naîtra pas. Mais je suis pas aussi. J'essaie de pas être quétaine. Puis de trop grandiloquent. puis d'être quand même dans le réel et de ne pas me fermer des portes dans la vie. Mais je pense que les histoires que j'ai, mes récits, l'histoire que je fais de ma vie, l'histoire de ma vie, de la vie de mon père aussi, de mes ancêtres, j'ai couché ça sur papier, au cas où. Et c'est peut-être là-dedans que se retrouve mon héritage. Sinon, le matos, mon appartement, qui maintenant va valoir des millions de dollars quand je vais être mort, là. Ouais, je vais donner ça à ma nièce, je sais pas, une fondation. Ouais. Tu sais, j'y pense, hein, pour vrai, j'y pense. J'ai des amis maintenant qui écrivent leur testament. Hein, bonne question à poser dans tes podcasts, question récurrente. As-tu un testament? Alors, merci pour ta question, j'en ai pas. J'en ai pas parce que ce que prescrit la loi me convient.
Et ça, c'est si l'avantage de vivre dans un état de droit civil comme le Québec. Nous, on n'a pas ça en Colombie-Britannique. On est dans le droit commun, alors quand on meurt, c'est un peu plus flou.
Alors moi, c'est si je meurs, tout va à ma mère. Et si ma mère n'est plus là, ça va à ma soeur. Si ma soeur n'est plus là, ça va à ma nièce.
Boum, bon, facile.
Ça me convient. Je trouve qu'elle devrait travailler un peu plus pour cet héritage. Elle devrait être un peu moins sur ses bébelles électroniques. Mais si c'est ça qui arrive une fois que je meurs, tant mieux pour elle. C'est correct. Ben, tu sais, des fois, je me dis, j'ai une fondation à Cochevert-Bocci pour la littérature francophone québécoise. Je pense que j'aurais pas assez d'argent pour faire vivre une bourse annuelle. C'est un peu prétentieux. J'en suis pas là, mais pour vrai, quand je vais devenir un vieux schnock, puis je fais ça, ben, on dirait que je suis un vieux schnock, mais ça me plairait. Quelque chose de concret comme ça, t'sais? Parce que là, je suis dans la poésie quand je parle de l'héritage, un héritier, tout ça. Mais très concrètement, c'est aussi qu'est-ce qui arrive avec mes affaires.
Hein? Et parlons de notre affaire ultime, la chose qui nous appartient peut-être le plus. C'est peut-être une de mes dernières questions. Le corps, tu t'as fait allusion plutôt au fait que dans notre génération, en tout cas, il y a... Certains commencent à expérimenter des troubles corporels qui sont associés au vieillissement. Est-ce que vieillir au sens physique te préoccupe? Et comment tu imagines cette deuxième moitié de la vie-là dans ce contexte-là très, très matériel, très ancré dans la réalité du corps?
Mais pour l'instant... J'ai pas aucun problème de santé. Je suis en forme. J'ai pas l'impression d'avoir perdu de mes capacités physiques tant que ça. T'sais. Mais je deviens prudent. Je veux pas faire de ski parce que j'ai peur de me casser une jambe puis de me retrouver en physio puis avec des vis puis j'ai comme pas besoin de ça pour les 3 prochaines années là. C'est comme pas si important pour moi de descendre des pentes de neige pour... Fait que ça, tu vois, ça, c'est une pensée de vieux. Je cours pas après l'autobus comme un malade. J'ai aussi un rythme comme ça. Je me donne des... Je fais attention à ce que je mange plus qu'avant. Tu serais contente d'apprendre... que je mange à peu près plus de viande, mais je suis pas aussi freak que toi. mais pour vrai, c'est quelques convictions derrière ça, mais c'est surtout une question de santé. Pourquoi pas? Pourquoi manger plus de légumes, c'est peut-être pas une mauvaise chose dans ma vie. J'essaie d'avoir une vie active, mais pas très disciplinée. Je fais de la randonnée quand je peux, mais là je me dis toujours je devrais courir un peu plus, mais je le fais pas. Je marche beaucoup, moi je me déplace toujours à pied, mais je me fais pas d'illusions, c'est-à-dire que il peut m'arriver des problèmes de santé de toutes sortes dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai réduit l'importance que je donne à ma vie professionnelle. Moi, là, mes voyages, là, ce ne sera pas ma retraite. Moi, c'était l'année passée, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Je suis parti, là, 2 mois en Asie, puis c'est une autre année. Hein. Je suis parti, écoute, j'ai fait des voyages de rêve en sac à dos, avec, comme des jeunes. Comme je ne le faisais pas, en fait, à 20 ans, vraiment. Bon, je suis parti, donc, je suis parti 5 semaines en Birmanie, en sac à dos, juste l'année des troubles il y a quelques années, donc la dernière fois qu'on pouvait y aller comme touriste. Je suis aventurier dans ce sens-là, comme je ne l'ai pas été avant. Je lis, j'essaie de lire des livres, de regarder les films, de profiter des trucs belles, beaux, des belles choses autour de moi. Parce que je veux profiter de ma vie. Puis je pense que c'est ça. Puis j'essaie de faire des choses qui me plaisent. Lire me plaît, donc je lis. Puis là, je ne veux pas faire le trop intello. C'est vrai pour des séries télé, c'est vrai pour le cinéma. Mais un équilibre quand même. Un équilibre quand même. Voir mes amis, je mets ça là-dedans. Moi, j'ai aussi le fait de ne pas avoir d'enfants a des avantages. Moi, je suis disponible pour mes amis. Moi, là, je suis toujours... Tu veux me voir, tu veux sortir, tu veux aller au cinéma, tu veux aller... Je dis toujours oui. Toujours, toujours, toujours. À moins d'avoir un autre rendez-vous. Ça, c'est une affaire de conseil de vieux sage que j'ai développé. C'est que avant de dire non à quelque chose, je me demande pourquoi je dis non. Puis je me dis, si c'est juste la paresse, je dis oui. C'est comme facile de dire non. Tu veux-tu goûter ça? Tu veux-tu venir là en fin de semaine, ce soir? Oh non, peut-être la prochaine fois. Je dis plus ça. Je dis oui. Des fois, en tout cas, je me fais un point d'honneur au moins de prendre un moment avant de dire non à quelque chose. Parce que c'est pas vrai que les occasions se représentent. C'est pas vrai. Puis, tu vois, des fois, même dans mes voyages, tu sais, ce truc-là, on va y revenir demain, puis on n'est pas retourné. Mais c'est pas être pas être dans la performance d'activité. La plupart du temps, je fais rien. Mais quand une occasion se présente, j'essaye de voir que ceci est une occasion.
De l'honorer.
De l'honorer.
J'entends comme tu as la gratitude pour l'opportunité. Tu veux honorer la beauté possible de ce moment-là plutôt que peut-être rester à la maison puis écouter une série à la télé, ce qui n'est rien contre les séries à la télé, mais...
Non, mais c'est plus que ça. C'est pas de l'honorer, c'est de le remarquer même.
Le voir.
Une occasion, de la remarquer, l'occasion. J'essaie de... Une ancienne amie, pour pas dire une vieille amie, qui m'appelle pour dire « Hey, j'ai un projet de podcast, ça tenterait-tu? » Mon réflexe, c'est « Oui, ben oui. » Tu sais, je suis pas en train de me dire « Ah oui, mais ça va être quoi le sujet? Je vais-tu avoir, ça va-tu me tenter que ça soit publié? Que à quel moment on fait ça? Ça va être compliqué, il faut que je m'achète un micro. » J'essaie de pas me dire « Ah, mais c'est cool, je vais participer à un podcast. On n'a qu'une vie. Pourquoi pas? Ça fait plaisir à l'autre, ça va exister. Je fais confiance, c'est ça aussi. » Je me dis pas, ah oui, mais comment ça va sortir? Je fais confiance aux gens. Ça aussi, c'est un réflexe que j'ai maintenant de vieux sage. Fait que bref, on devient philosophe aussi avec le temps. En fait, je deviens écoute, et ça, je me fais peur. Je me fais peur pour vrai, là. comment je vais radoter à 80 ans, à quel point je vais dire j'ai compris des choses. Puis j'aime ça. J'ai réécouté dernièrement cette chanson de l'acteur français Jean Gabin. Je ne sais pas si tu connais. Ça s'appelle « Maintenant, je sais ».
Non.
Et maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. C'est tout banal comme chanson. Et on m'a fait écouter ça quand j'avais 15 ans. J'ai réécouté ça à toutes les époques de ma vie. Et à chaque fois, ça me fait pleurer. À chaque fois, je suis content d'avoir connu cette chanson. C'est une chanson qui dit qu'à tout âge, on pense avoir tout compris la vie, mais finalement, on ne la comprend jamais. Et il y a une phrase là-dedans qui est très belle, qui dit que quand l'amour passe, c'est les plus beaux moments. Et ça aussi, je suis amoureux aujourd'hui et je pense que j'ai toujours été. Et j'espère l'être encore dans 5, 10, 10 ans et jusqu'à ma mort. Hein.
Merci à Akosh pour la belle conversation et merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 4e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram à laquarantaine.balado. Pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer, j'ai encore de la place, visitez le site laquarantainebalado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.